Bonjour à toutes et à tous, c'est Élie Ré et bienvenue dans Terre de Meuf, l'émission qui donne un espace aux femmes de lettres et aux montres rôles. Aujourd'hui, pour commencer notre voyage rustique, on va s'intéresser à la femme qui a donné une parole à la campagne, à ceux dont on a ôté la voix. Je parle de George Sand.
Terre de Meuf.
George Sand, une femme, oui, mais quelle femme! Romancière, dramaturge, épistolière, journaliste, mère, amante, femme engagée, femme noble, femme du peuple, que de mots pour décrire une vie. Mais avant George, il y a Amantine. Amantine, elle est née en 1804, à Paris, d'un père officier de l'armée impériale, parent avec le maréchal de Saxe, et d'une mère ayant des origines modestes. Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil passera son enfance dans le Berry. Oui, juste à côté de chez nous, dans le château de Nohant. Sa mère lui fait son éducation. Elle lui fait découvrir le monde environnant, celui de la campagne. A contrario, sa grand-mère paternelle, elle, souhaite élever l'unique héritière de sa fortune. Latin, musique, lecture de Voltaire et de Rousseau sont au programme. Amantine est baignée dans la culture aristocratique. Ainsi, si l'origine est double, l'éducation l'est aussi. Il y a cohabitation de la culture aristocratique et des valeurs modestes. Dès l'enfance, Amantine est sensibilisée à ce qui l'entoure. Elle observe son environnement et est imprégnée par la vie paysanne, le paysage de la nature berrichonne. Et puis, l'adolescence se faisant, la grand-mère ne parvient plus à contenir l'attitude rebelle de la jeune fille. À 14 ans, Amantine Dupin part de chez elle afin de rejoindre le couvent des Augustines. À 18 ans, elle se marie à Casimir du Devant et devient la baronne du Devant. Les époux s'installent à Nohant. Mais sous le joug du mariage, Aurore devient la mineure de son mari, elle qui était tant éprise de liberté. Les années s'écoulent et la situation conjugale se dégrade. Aurore souhaite son indépendance, sa liberté. Cette conquête se fera grâce à Jules Sandeau, pour qui elle quitte son mari afin de le rejoindre à Paris. Et puis, très vite, une question apparaît. Comment s'engager quand on est une femme ? Comment être reconnue comme un être à part entière ? L'écriture devient très rapidement la réponse. Rose et Blanche sera l'œuvre initiatrice. Ce sera son premier roman, en collaboration avec son amant, Jules Sandeau. Et de cette expérience avec Sandeau, naît le nom de Sand. Dans Histoire de ma vie, écrit en 1855 son autobiographie, elle dira
« Je pris vite et sans chercher le prénom de Georges, qui me paraissait synonyme de Berrichon. »
En 1832, Amantine Dupin et Georges Sand. Elle s'habille en garçon, mène une vie de garçon. Dans le monde public, Georges est connu. Il occupe une place. Les origines rurales ne sont pas cachées. Au contraire, elles sont exposées au public grâce au nom. Aurore transgresse son époque. Ce nouveau patronyme offre à l'écrivaine la possibilité de publier seule, en 1832, son nouveau roman, Indiana. Cette période d'écriture est romantique. Sand explore les passions de son existence, mais aussi la place qu'occupe la femme dans le mariage au XIXe siècle. La plume est une voix féministe, moderne, en lutte avec les idées patriarcales et sexistes d'une époque. Et malgré la misogynie subie, le nom de George Sand se fait une place dans le cercle littéraire très masculin de l'époque. Elle est reconnue comme un auteur, à la star de Balzac ou Hugo. Sand côtoie les grands artistes. Musset, Liszt, Chopin, Marie Dagout, Balzac, Flaubert et bien d'autres encore. Une vie de dandy en somme. Mais en 1840, la France est divisée. Un débat s'installe sur la question sociale. L'industrialisation du XIXe siècle entraîne avec elle une dégradation des conditions de travail. Aliénation, exploitation, travail des enfants. Ici débute l'engagement de George Sand. Elle entre en lutte. Tout d'abord, avec la création d'un journal, La Cause du Peuple, où les idées exposées sont proches du mouvement communiste. Sand lutte aussi pour l'indépendance des femmes, les dérives du mariage et l'éducation des filles. En 1848, elle soutient la Révolution populaire qui met fin au règne de Louis-Philippe et instaure la Seconde République française. Mais la République ne dure pas. Elle ne satisfait pas le peuple. La révolte redémarre sous la pression des émeutiers. La République contre-attaque avec sa garde. Le peuple est maté, sans des dégoûtés. Elle qui, comme elle le revendique, est la fille d'un patricien et d'une bohémienne. Elle qui sera avec le peuple et avec la bohème contre les rois et leurs suppôts. Quelques années plus tard, Sand préfère se retirer à Nohant. Et cette retraite dans la demeure berrichonne signe l'ère du roman paysan, du retour à la terre ou plutôt de la poursuite du lien qu'elle entretient avec la terre, avec notamment la Mare au Diable ou François Le Champy. L'écriture est un moyen aussi de combler les dettes du domaine de Nohant, de vivre donc, mais de continuer d'exister aussi. Sand est une femme du peuple, elle défend les marginaux, les pauvres, les exclus, les femmes. Une communauté se crée autour d'elle et de sa demeure. Le château de Nohant est un théâtre où les gens du coin, les amis, les paysans, les domestiques sont un public. En 1876, elle se sent peu à peu partir. Et la bonne dame de Nohant mourra le mois suivant. Victor Hugo dira « Je pleure une morte, je salue une immortelle. »
Exciting sounds. His
L'œuvre de Sand est abondante. Sa vie a été dédiée aux mots et aux autres. Près de 70 romans ont été écrits. Dans la seconde partie de sa vie, George Sand offre à la paysannerie une place décisive dans son œuvre littéraire. Avec La Mare au Diable, publié en 1846, tous les personnages sont des gens de la terre. Il y a Germain le laboureur, le père Maurice, la pastoure Marie et bien d'autres encore. Le milieu rustique est un espace d'inspiration et de création pour l'écrivaine, explicable notamment par son enfance passée dans le Berry.
Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaine prochaine. L'arène était vaste comme celle du tableau d'Holbein. Le paysage était vaste aussi, et encadrait de grandes lignes de verdure, un peu rougies aux approches de l'automne, ce large terrain d'un brun vigoureux, où des pluies récentes avaient laissé, dans quelques sillons, des lignes d'eau que le soleil fait briller comme de minces filets d'argent. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Un enfant de 6 à 7 ans, beau comme un ange et les épaules couvertes sur sa blouse d'une peau d'agneau qui le faisait ressembler au petit Saint Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le sillon parallèle à la charrue.
Ici, le narrateur se peint dans ce paysage rural en train de marcher. Ses yeux regardent la terre et les personnes qui la travaillent. Le jeu porte une voix qui est destinée à représenter les autres. Sand, influencé par Rousseau, marche sur un paysage qui l'amène à écrire un tableau rustique. Le récit est envisagé de l'intérieur, c'est-à-dire depuis la vision du marcheur. Avec cette marche, le jeu s'approche de son sujet, sans toutefois empiéter sur le travail du paysan. Il reste, comme il l'écrit, à la lisière d'un champ. Ainsi, au bord de l'espace rural, le jeu se met à décrire l'arène de la campagne, l'espace au cœur de la vie paysanne. L'écrivaine observe, admire le paysage rustique. Les détails de l'espace s'inscrivent dans une dynamique d'écriture réaliste, correspondant donc à l'intérêt et à la connaissance qu'a Sand du milieu. L'écriture de la terre, c'est dès lors le moyen d'exprimer sa subjectivité. La perception de la réalité paysanne est fusionnée à une manifestation poétique et champêtre. Ainsi, l'écriture du paysage réunit le réalisme, sans pour autant qu'il soit une pure copie de la réalité, et l'idéalisation, sans pour autant qu'elle soit une déformation du milieu. Ce passage descriptif d'un champ permet l'expression de la campagne en tant que paysage singulier. La simplicité naturelle, originelle même, qui transparaît du paysage, suscite l'émouvant de Sand. L'écrivaine reçoit, comme elle le dit, l'impression de la terre du Berry. Elle fait s'exprimer la campagne grâce à son observation et à la relation intime qu'elle entretient avec les ruraux. La réalité paysanne est au fondement de son idéalisation dans l'écriture. Sand écrit sa vision, elle écrit la conscience intérieure, celle qui lui appartient. Le paysan est réhabilité de manière délicate et tranquille, sans toutefois être déformé. Le naturel est montré dans le prisme du champêtre. Une transparence est possible donc grâce à la familiarité de l'écrivaine qui conserve son attache pour le milieu rural. La marque de ce monde investit l'écriture de Sand. Elle est enracinée dans cette réalité grâce à la proximité qu'elle entretient avec le sujet. Subjectivité et fiction sont mobilisées afin de parvenir à l'écriture d'un monde dont elle semble être l'apparente. Une promotion de la ruralité se met en place au travers des inspirations sociales et intimes de Sand. Le roman rustique vient du peuple, la littérature est du côté des simples. Elle l'écrira.
Voyez donc la simplicité, vous autres. Voyez le ciel et les champs, et les arbres, et les paysans, surtout dans ce qu'ils ont de bon et de vrai. Vous les verrez un peu dans mon livre. Vous les verrez beaucoup mieux dans la nature.
Libre d'esprit, libérée des mœurs, femme indépendante, femme d'exception, George Sand fait scandale, fait peur, fait parler. L'identité protéiforme, la volonté inaltérable et les idées modernes de cette femme ont fait d'elle une personnalité, un écrivain, une écrivaine hors norme. La dualité du Dupin-Sand traverse, transforme et fait exploser les normes d'une époque. Elle est indéfinissable car justement, elle ne correspond à aucune définition de l'époque. Elle est elle. Pour poursuivre ce voyage rustique, de nombreuses œuvres ont été consacrées à notre écrivaine du jour. Et notamment les travaux de Martine Reid et Michel Perrault, ainsi que des documentaires et des films tels que Les Enfants du siècle de Diane Curis. Merci pour votre écoute, merci de m'avoir accordé votre temps. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Terre de Meuf.